en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Le mardi 20 décembre 2005, lors d'une séance solennelle de l'Académie de médecine, Monsieur Gabriel Debreuil a prononcé une communication sur la situation de la langue française à l'égard de la mondialisation. Cette communication portait pour titre « La langue française dans le monde aujourd'hui ». Monsieur Debreuil, je le rappelle, est membre de l'Académie française, de l'Académie des sciences morales et politiques et depuis le 1er janvier 2006, il est le chancelier de l'Institut de France. La langue française lui tient particulièrement à cœur. Voici en quelques mots ce qu'il dit lui-même de sa relation au français. « Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti le français comme une fibre de mon être. J'ai vécu du français comme on respire le bon air. J'ai éprouvé pour le français un sentiment profond et intime qui n'était pas l'amour avec ses déceptions, ni la passion dévorante, mais l'émerveillement. » Rappelons que M. Gabriel Debreuil a été membre de plusieurs cabinets ministériels, dont le ministère des Affaires culturelles. Il s'est particulièrement engagé dans la défense de l'audiovisuel public, ayant occupé, entre autres fonctions, la direction générale de Radio France et la présidence de l'Institut national de l'audiovisuel. En colloque sur Canal Académie, vous propose d'entendre l'analyse de Gabriel Debreuil sur la situation de la langue française aujourd'hui.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier honoraire, Messieurs les Présidents, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi une grande satisfaction que de m'exprimer devant votre prestigieuse compagnie et de vous apporter le salut des académies du Quai Conti et de l'Institut de France, avec lesquels vous entretenez d'anciennes et d'étroites relations. En vous exprimant ma gratitude, je veux aussi vous exprimer mes sentiments de vive estime et de considération pour l'institution de l'Académie nationale de médecine, son président et ses membres. J'espère ne pas vous décevoir en vous déclarant tout de suite que je ne traiterai pas de la langue française et de la médecine. C'est un sujet que vous connaissez beaucoup mieux que moi, et je me bornerai donc à évoquer quelques aspects de la situation de la langue française à l'égard de la mondialisation. C'est une marque de notre époque, sans doute, que les Français éprouvent à l'égard de la mondialisation de la crainte. Ils redoutent ses effets comme si ceux-ci allaient arriver et qu'ils étaient défavorables pour la France et leur situation. Je voudrais essayer de montrer qu'ils ont tort. D'abord, la mondialisation n'est pas une situation nouvelle. Il a existé déjà dans le passé des situations de mondialisation autour de Rome et du latin, autour de quelques nations européennes, au premier rang desquelles la France et la langue française. Et donc, la crainte à l'égard d'un avenir ne me paraît pas justifiée. L'histoire, certes, de nos jours, enseigne, comme une loi très générale, que le développement d'une langue est fonction de la puissance politique, militaire, économique du ou des peuples qui la parlent. Et tout le monde sait que les grandes langues sont liées au sort des empires. Alors de nos jours, évidemment, une superpuissance domine le monde. Sa langue s'installe comme langue dominante dans les affaires, les transports, les états-majors, la finance, la publicité, dans les organisations internationales et même dans la diplomatie. Cette langue véhicule des images, des héros, des usages et à la fin un mode de pensée qui se répandent sur l'ensemble de la planète. Ils exercent une domination qui est plus forte que si elle était politique, car elle est à la fois économique et culturelle et qu'elle se présente sous un aspect souvent séduisant, même si elle est dénoncée comme un néocolonialisme. Il faut voir que cette situation est le résultat d'une volonté politique. Une domination linguistique ne s'établit jamais d'elle-même. Toutes les puissances ont une politique linguistique, et celles qui le reconnaissent le moins ouvertement ont souvent la plus déterminée. Les États-Unis d'Amérique ont une politique linguistique très volontaire, appliquée non seulement par le pouvoir fédéral, mais par toutes les grandes agences gouvernementales, par les fondations, les universités et par les grandes affaires qui sont toutes liées au pouvoir. La différence avec notre situation, c'est qu'ils n'ont pas besoin de loi pour développer et appliquer cette politique linguistique. Est-ce que la situation ainsi décrite entraîne des conséquences inéluctables ? Est-ce que, dans la mondialisation, il faut inclure des techniques modernes de communication, le cinéma, les médias de masse, les nouvelles technologies, qui donneraient à ce néocolonialisme, ou disons cet impérialisme linguistique, des moyens de propagande, de pression, de séduction, jamais réunis dans le passé. Cette idée est si bien présentée que l'idée d'une lingua franca qui s'imposerait comme pour le plus grand bien et le progrès de l'humanité a des adeptes, tout autant d'ailleurs chez les partisans de cette langue que chez ceux qu'elle domine. Alors l'anglo-américain est-il en train de se substituer aux langues artificielles à vocation universelle du XIXe siècle qui ont disparu sans laisser de traces? Ce n'est pas mon opinion, et ceci pour plusieurs raisons. Et tout d'abord, la langue d'usage à travers la planète, la langue qui sert aux touristes et aux commerçants qui voyagent, et que l'on appelle à travers le monde le globish. Cette langue est une langue pauvre. Son vocabulaire s'évalue entre 200 et 500 mots. Elle ne peut pas se substituer aux langues complètes, ni rendre toutes les précisions et les nuances d'échange entre, pas uniquement les intellectuels, mais simplement les professionnels, les spécialistes, les experts, dans les différentes sphères linguistiques. Au-delà des conventions utilitaires, des simples déplacements, la traduction est indispensable. D'autre part, les États-Unis d'Amérique ne sont pas eux-mêmes sur leur propre territoire en voie d'unification linguistique. Ils connaissent des langues minoritaires, l'espagnol surtout, qui se développent plus rapidement que s'installe leur propre langue. Et enfin, à l'extérieur, les langues de toutes les grandes nations sont en progression numérique et aucune ne donne actuellement des signes de dépérissement. Mais si le monde n'est pas en voie d'unification linguistique, et c'est une réalité que tout le monde peut constater aujourd'hui, c'est que les grandes langues internationales donnent des signes de vitalité. Ces grandes langues sont au nombre de 4, l'anglais, le français, l'espagnol et le portugais, auxquels se joindront probablement, assez rapidement même, le russe et le chinois. Pour accéder à ce rang, ces langues doivent présenter des caractéristiques qui leur permettent de conserver leur vocation de communication mondiale. Ces caractéristiques, ce sont l'attachement des locuteurs à leur langue. Une langue parlée par un nombre suffisant de populations. Un vocabulaire et une néologie vivants, permettant d'exprimer toutes les notions et réalités nouvelles au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Une langue d'échange pour une proportion suffisante de l'activité économique. Une langue parlée sur plusieurs continents. La présence de cette langue sur tous les réseaux modernes de communication. Une langue qui soit le véhicule d'une culture dont le rayonnement est universel. Constatons que le français réunit toutes ces conditions avec l'anglais. À l'échelle de la planète, notre langue ne se trouve pas dans la situation alarmante que certains dénoncent parfois. Le français n'a jamais été parlé par un nombre aussi grand de locuteurs qu'aujourd'hui. Les francophones réels sont au nombre de 110 millions, les francophones occasionnels de 60 millions, et les francisants, c'est-à-dire ayant des notions de français, de 110 millions. Les francophones sont dispersés sur les différents continents. La qualité moyenne du français écrit et parlé se situe à un niveau meilleur sur le plan international que celui de toutes les autres langues, et en particulier que la langue dominante. Mais qu'est-ce que c'est que le niveau moyen d'une langue, niveau écrit et parlé? Difficile à évaluer, évidemment. Le français est mieux parlé sur notre territoire que la langue en usage il y a un siècle, où le français n'était pas une langue universellement connue dans les provinces. Notre langue se déforme peu. Elle évolue, certes, mais lentement. Elle s'enrichit, de vocabulaire technique surtout. Et le français reste, en outre, parlé souvent très bien par des élites internationales qui conservent à notre langue une part de son statut ancien et reconnu dans les relations internationales. Tous ces caractères la placent au deuxième rang des grandes langues mondiales, même si, en nombre, elle se place évidemment derrière l'espagnol et d'autres langues asiatiques. Mais le français tient aussi le rôle de la langue détrônée, de l'ancienne langue dominante. Et nous vivons dans la nostalgie du temps où l'Europe et le monde même parlaient le français. Du temps où l'Angleterre et la moitié de l'Amérique du Nord, l'Angleterre il y a très longtemps, mais la moitié de l'Amérique du Nord s'exprimait en français. Nous gardons les blessures des dates qui ont marqué le déclin progressif, et nous avons tendance à attribuer ces régressions à de mauvais coups du sort. Mais en réalité, nous nous gardons bien de regarder ce qui se passe chez nous. Une des premières conditions de l'essor d'une langue, c'est la démographie. Et la démographie française n'a jamais cessé de s'affaiblir depuis le milieu du XVIIIe siècle. Et nous n'avons jamais, sauf au Québec, établi de peuplement outre-mer. Les Québécois qui sont nos contemporains, eux, ont bien compris la leçon et ils ont établi la survie et le développement de leur langue, nation, dans une science nouvelle qu'ils améliorent sans cesse, approfondissent sans cesse, et qui est la démolinguistique. Qui fait de la démolinguistique en France aujourd'hui? Et c'est sans doute à cette situation de langue détrônée que les Français doivent l'aigreur, le dépit qu'ils éprouvent à l'égard de la prépondérance de l'américain. Mais à mes yeux, la situation objective peut sans doute expliquer la nostalgie, bien sûr, et tout le monde la partage, mais elle ne justifie pas le défaitisme. Aucune loi, ni économique, ni physique, ni financière, n'entraîne un déclin nécessaire de notre langue. Prenons le cas de l'Europe. On s'interroge sur l'avenir du français en Europe. Est-ce que l'Union européenne implique que nos vieilles nations qui constituent l'Union s'acheminent vers une fusion linguistique? Où peut-on voir cela? Certainement pas dans les traités. Le traité de Rome proclame la diversité linguistique, le traité de Maastricht l'avait fait aussi, et la constitution Mornay le proclamait elle aussi. D'ailleurs, la diversité linguistique de l'Europe est constitutive de l'Union européenne et donc de l'appartenance des membres de cette Union. Cette diversité n'est pas plus évitable que la diversité de l'histoire ou des cultures et même de la géographie de l'Europe. Et donc, si l'objectif est de créer un marché unique, eh bien, il est bien léger de prétendre que la diversité des langues constitue un obstacle. En réalité, ce n'est pas une entrave importante, et beaucoup moins, par exemple, que les différences de la géographie, que du dessin des côtes, le cours des rivières ou de la présence des montagnes. et cependant personne n'envisage de les supprimer. Alors, la France se sent menacée au sein de l'Union européenne, elle proteste souvent seule contre les atteintes portées au plurilinguisme au sein de la communauté, mais en réalité, elle représente le point de vue de 23 des 25 membres de l'Union européenne, et qui la laissent agir et monter au créneau seule, parce qu'ils savent qu'elle le fera en effet, et que cela servira la cause de tout le monde. Mais il est bien certain que méconnaître la diversité linguistique de l'Europe n'est en aucune manière rendre service à la cause de la construction européenne, et que, au contraire, c'est entraîner un appauvrissement, pas seulement culturel, mais même un appauvrissement dans le sens de la création de conflits linguistiques bien inutiles. Et au surplus, au sein même de l'Union européenne, notre langue se voit reconnaître une vocation particulière, de plus en plus affirmée d'ailleurs, qui est celle d'être la langue du droit en Europe. Et elle le fait par sa capacité à surmonter un certain nombre de questions qui se posent dans l'unification européenne. Et ces difficultés, elles découlent par exemple de l'interprétation des textes. Et les experts européens savent que lorsqu'il y a une difficulté d'interprétation, ils ont recours aux Français pour lever cette difficulté. La jurisprudence, on sait que cet ensemble de principes et de règles qui découlent des règles antérieures et qui comblent les lacunes du droit non écrit, la jurisprudence est plus facilement formulée en français, en particulier qu'en anglais, dont le système juridique n'appelle pas justement de jurisprudence à cause de la common law et de l'addition des cas particuliers dont il ne naît jamais une jurisprudence. Et enfin, à côté de l'interprétation et de la jurisprudence, il y a tout simplement la codification. On a oublié depuis 1970 de codifier les textes européens, et cela devient une gêne considérable, car les textes qui s'empilent les uns par-dessus les autres n'abrogent pas les textes antérieurs, si bien que la recherche des textes applicables devient une chose très difficile et dans certains cas impossible sans une codification des lois européennes. Cette codification n'est pas concevable sans le secours des experts français et sans le secours tout simplement de la langue française. Et c'est une réalité qui est de plus en plus reconnue dans les milieux européens. Alors, quel jugement peut-on porter aussi des nouvelles technologies de la communication qui s'imposent partout ? Portent-elles atteinte à le sort de notre langue ? Le cinéma, certainement pas. Nous avons le deuxième cinéma du monde et dans une situation très confortable, c'est-à-dire très loin derrière les troisièmes et autres cinémas. Le premier étant l'américain. Et notre cinéma se trouve dans une situation confortable et d'ailleurs très bien protégé par une législation souvent attaquée, bien entendu. C'est également aussi le cas de notre télévision qui, avec tous les défauts qu'elle a, bien entendu, s'exprime en langue originale française. Ce n'est pas le cas de toutes les télévisions dans le monde, c'est un cas d'exception. Comptez le nombre de pays dont la télévision ne s'exprime pas dans la langue nationale. Mais dans l'anglais, tout simplement. Nous avons posé des règles, il n'y a pas très longtemps, qui imposent à toutes les télévisions de s'exprimer en langue française et de produire et de diffuser des émissions produites en langue originale française, et c'est encore le cas. Est-ce que la révolution de l'informatique présente une menace pour le français ? Oui, sans doute, l'informatique est une menace contre toutes les langues, mais pas spécialement contre le français. Qu'en est-il de l'Internet ? Alors, la révolution de l'Internet façonnera le monde de demain beaucoup plus profondément que ne l'a fait l'informatique, dans une brève révolution qui a presque épuisé ses effets. L'Internet est en effet un instrument de domination de la langue américaine de nos jours. On peut dire que 80% du volume global mondial de l'Internet est en américain. Mais qu'est-ce que veut dire 80% du volume global de l'Internet, ce réseau mondial et virtuel, n'est-ce pas ? C'est pas très bien ce que cela veut dire. Surtout si on songe que les messages sont constitués également essentiellement de chiffres bancaires, ou de chiffres d'assurance ou de données économiques. Non, ce qui est vrai, c'est que la proportion du français, la place du français sur l'Internet reste insuffisante, mais elle n'est pas aussi catastrophique qu'on le dit, et elle est en train de croître. Parmi tous les messages figurant sur Internet dans le monde, la moitié sont en langue autre que la langue américaine. Et dans cette seconde moitié, le français représente 10%. Ce qui est une situation honorable. Et cette place est en train de croître et de dépasser d'autres langues qui avaient une situation supérieure, comme par exemple l'allemand et l'espagnol, qui avaient pris dès le début des positions intéressantes sur ce sujet. Rappelons aussi que l'Internet ne menace pas les langues, l'ensemble des langues, car l'Internet ne se substitue pas complètement à l'écrit. Il fournit un nouveau mode de transmission, à la fois individuel et collectif, à la fois transmission de masse et en même temps transmission ciblée. Mais enfin, l'Internet est au service des langues, même comprimées, même réduites. Et toutes les langues, sans en privilégier aucune, trouvent dans ce réseau un nouvel usage, de nouvelles perspectives d'emploi, aussi un nouveau champ de compétition, bien entendu. Alors, en réalité, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de fatalité en matière de langue et que le mouvement des langues n'est pas seulement commandé par des phénomènes matériels, économiques ou de puissance. La richesse des empires et la force des lois n'expliquent pas tout. Il y a les caractères propres de chaque langue. Et c'est peut-être un élément déterminant que les Français ont tort de minorer. Les caractères propres du français, c'est que le français reste la langue unique et unifiée en usage dans une grande nation de plus de 60 millions d'habitants. C'est une situation exceptionnelle dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de langues uniques qui soient langue unique d'une grande nation. Et cela entraîne le confort des Français dans leur langue. Mais ce confort est peut-être un signe, une source de faiblesse. Il faut voir que ce confort est récent et qu'il n'a pas 90 ans. Et que dans les périodes antérieures, la France n'a pas vécu dans cette situation de confort parce qu'il y avait de nombreux dialectes, des patois, qui n'était pas la situation linguistique unifiée que nous connaissons aujourd'hui. On peut dire que par rapport à d'autres langues, en particulier l'américain évidemment, mais l'espagnol aussi, il y a peu de différence entre les niveaux de langue maternelle, populaire, officielle et de culture en ce qui concerne le français. À travers le monde aussi, le français se déforme assez peu, beaucoup moins en tout cas, là aussi que l'anglais. Notre langue est normalisée, elle est un peu figée, elle est très institutionnalisée, son vocabulaire se rétracte, il y a certes des emprunts à l'anglais, mais moins qu'il y a 50 ans, et d'une certaine manière, le français résiste mieux à une sorte de dévaluation des langues, des grandes langues qui existent dans toutes les sphères linguistiques. Je n'ai pas parlé de l'italien ou du portugais, de la dérive du portugais sur le continent sud-américain. Donc les préoccupations des Français à l'égard de la pureté de leur langue et de la qualité de leur langue sont certes appréciables et peut-être salutaires. Il ne faut pas qu'elles modifient le jugement que l'on peut porter sur les chances de notre langue. Alors évidemment, je sens que chacun a dans l'esprit des volontés de protestation contre ce que je viens de dire, et l'orthographe, et la conjugaison des verbes, et la prononciation, et les expressions mal formées, et le rôle des médias, et etc. Les dégradations sont innombrables, moins globalement que d'autres langues, et ces dégradations ne doivent pas entraîner un jugement défavorable sur la situation de notre langue aujourd'hui. J'exprime une opinion personnelle, bien entendu, et volontairement optimiste, sans rien me cacher de tous les dangers et les risques. Mais ce panorama actuel des usages du français est constamment fait, vous l'observerez, dans les grands médias. On confond toujours les niveaux de langue, on confond toujours la langue écrite et la langue en usage, parlée, on confond toujours la langue et les argots, et tout cela perturbe le jugement. Et malgré la sévérité dont on doit faire preuve, bien entendu, il faut constater aussi que le français ne perd pas ses qualités, qui continuent à être reconnues dans la sphère, si ce n'est en France, au moins dans la sphère francophone, et que, à ce titre, au moins, ces qualités conservent tout leur prix. Alors, ces qualités, les qualités du français, il faut en dire un mot tout de même, parce que si nous ne les oublions, les francophones et des autres, les personnes dans les autres sphères linguistiques, elles les connaissent très bien et les remarquent. Évidemment, la qualité principale qui contient peut-être toutes les autres, c'est la clarté. Mais le français n'est pas seulement clair. Il a bien d'autres qualités. Il tend à la spéculation. Il tend à la démonstration. Il tend à, sans caractère militaire, mais il tend au commandement, c'est-à-dire à l'ordre donné et reçu, avec sécurité. Il tend à la synthèse. Et cela est dû à quelques caractères indéfiniment célébrés, que sont l'ordre direct de la phrase qui procède du particulier au général, de ce qui commande la compréhension à ce qui en découle, l'équilibre entre le nom qui exprime les formes fixes et les verbes qui expriment les formes en mouvement et l'action. Cela est dû à la richesse des verbes français en temps, en mode, en forme. Cela est dû à la force des conjonctions françaises qu'on oublie trop souvent mais que nous héritons directement du latin. Cela est dû à la précision de notre vocabulaire abstrait, non pas l'abondance de notre vocabulaire concret, de ce point de vue nous ne pouvons pas rivaliser avec l'anglo-saxon, mais la précision du vocabulaire abstrait, oui, ce qui fait que tous les nouveaux termes qui apparaissent en anglo-américain sont des termes d'origine latine. L'américain se latinise à une vitesse foudroyante. Et pour l'avantage que le français donne à la stabilité sur le mouvement, à la raison sur les sentiments, à l'institution sur l'intimité, à l'ordre sur le désordre, au vertical sur l'horizontal, le français offre l'outil le plus évolué au service de l'activité intellectuelle. Ayant dit cela, je me demande si je n'ai pas prononcé en même temps la condamnation du français dans l'époque future. Notre langue n'est-elle pas dépassée par ses qualités mêmes ? N'existe-t-il pas une autre langue, plus facile, plus courte, mieux adaptée au monde de l'économie, de l'entreprise ? Une langue qui fait prévaloir la simplicité sur la forme, la rapidité sur la concision, l'échange sur l'analyse, la communication sur la déclaration. D'où l'inévitable interrogation. Par rapport à l'anglais, disons à l'anglo-américain, le français ne correspond-il pas à un moment dépassé de la civilisation ? Ses qualités conviennent-elles à notre société qui est technologique, mais qui est surtout une société de facilité, de confort, de consommation et même de permissivité. Le français présente une autre qualité. C'est que, façonnée par son histoire, elle continue à posséder son prix dans le monde où nous vivons parce qu'elle n'est pas une langue d'oppression. Elle n'est même pas impérialiste. Le français est un instrument au service de l'activité intellectuelle surtout. Le français n'a jamais combattu ni éliminé les langues étrangères. Sa vocation a toujours été, et reste aujourd'hui encore, la coexistence, la complémentarité, le passage d'une culture à une autre, d'une conception du monde à une autre. Après avoir été la langue des cours et celle de la Révolution, Elle est maintenant la langue de l'héritage et celle des droits de l'homme, et elle est devenue, en quelques décennies, la langue de l'un des réseaux les plus importants de la planète, la francophonie. Mais le français n'est pas seulement la langue de la francophonie. Il est reconnu par d'autres sphères linguistiques comme facilitant l'accès à toutes les langues et l'échange entre elles. Langue ouverte, il favorise et probablement est seul à favoriser la similarité entre une langue et une culture. C'est bien ce que reconnaissent les écrivains d'autres langues maternelles qui adoptent le français pour exprimer leur culture initiale, originelle. Le français capte et développe la sympathie entre les cultures. Il est recherché pour son aptitude au dialogue. Les traducteurs l'apprécient comme la plateforme la mieux conçue, comme le pont le plus sûr pour leur traduction. Et Dieu sait que cette activité se répand dans le monde et qu'elle gagne en extension, mais aussi en rapidité, en intensité et en complexité. Ainsi s'affirme la modernité de la langue française. Et vous voyez que je n'ai pas dit un mot de ses qualités de littéraire, du beau langage, ni même de la qualité de la littérature française qui a porté le français pendant tout le XIXe siècle et les deux premiers tiers du XXe siècle. Il faut se poser la question, le français est-il bien soigné en France? Et je voudrais dire quelques mots de l'entretien de la langue au sein de la nation qui en a la charge aux yeux de l'humanité. L'entretien de la langue, c'est l'enseignement. Que dire? On a tout dit sur la faillite de l'enseignement du français en France. Le premier degré fabrique une proportion alarmante d'illettrés qui reste dans le second degré des handicapés du français et handicap qui ne les empêchera pas d'accéder à l'enseignement supérieur, mais qu'ils ne rattraperont pas. Et on a été amené à créer un mot nouveau pour désigner l'effort qu'il fallait faire pour lutter contre cette situation, c'est le mot « littérisme ». Pourquoi ce mot nouveau? Parce qu'il n'y a pas de contraire à illettrisme. Le lettrisme n'est pas le contraire de l'illettrisme, c'est une école littéraire ou poétique. Et donc, on essaye de lancer le mot de littérisme pour indiquer ce qu'il faudrait donner aux élèves de l'enseignement en France pour qu'ils aient le bagage suffisant de lecture et d'écriture, de compréhension pour se situer confortablement dans le monde d'aujourd'hui. Le scandale est grand. Le scandale est d'autant plus grand que le français s'enseigne hors de France, comme langue maternelle, langue d'enseignement ou langue étrangère, par 100 000 professeurs de français, professeurs étrangers, répartis dans 118 pays, regroupés dans 180 associations et une très dynamique fédération internationale des professeurs de français. Ces enseignements sont loin d'être frappés par la même stérilité. Au lieu de méditer sur les disciplines d'éveil, sur la réforme des méthodes pédagogiques et sur la vertu de la méthode globale comparée à la méthode syllabique, comme on le fait à loisir en France, on apprend à l'étranger tout simplement le français et de surcroît un peu de littérature française. Et d'ailleurs, de nombreux enseignants français participent de façon très appréciée à cet enseignement, soit directement, soit par l'assistance à la formation qu'ils apportent à cet enseignement. Et l'investissement le plus rentable qui existe pour le français consiste de très loin dans la présence de lycées français dans les grandes villes étrangères, surtout pour les élèves, non pas des ambassades ou de la colonie française, mais pour les élèves des élites des pays considérés. Hélas, il y a 20 ans, on commençait à fermer tel ou tel lycée français à l'étranger pour y envoyer des émissions de télévision. C'est-à-dire qu'on vendait les bijoux de la couronne pour tirer un maigre feu d'artifice. Alors, je voudrais dire un mot rapidement, si vous m'accordez encore quelques instants, Monsieur le Président, sur les techniques informatiques appliquées à l'entretien de la langue. Et c'est un sujet qui, je crois, présente un certain intérêt d'actualité. Ces techniques informatiques constituent une aventure naissante et elles vont connaître de grands développements. L'informatique permet de traiter la langue, des ensembles de textes, des ensembles de vocabulaire, de paroles, des lexiques, des dictionnaires et toutes les sortes de documents, et de les traiter avec toutes les facilités de l'informatique, de consulter les banques et les bases de données, de rechercher et de trier les informations. Elle s'étend à l'édition assistée par ordinateur, au logiciel de correction de l'orthographe, du style, au logiciel d'aide à la rédaction, de résumé automatique, de génération de texte à partir des résumés, au logiciel de traduction automatique et de traduction assistée par l'ordinateur. Elles ont également, ces techniques, abordé le domaine du traitement vocal, c'est-à-dire de la reconnaissance vocale de la parole du locuteur, de la parole de la langue, des mots, des sujets. Elles ont abordé la dictée automatique et même la signature vocale. Mais dans ce dernier cas, la signature vocale, on déborde le problème de la langue et on aborde celui du chèque bancaire ou des serrures électroniques. Mais revenons aux industries de la langue. Ces industries, pour le moment, n'affectent pas la santé de la langue. On en parle assez peu, d'ailleurs. Mais dans un avenir relativement proche, elles commanderont l'emploi au niveau mondial de la langue et la situation respective d'une langue par rapport aux autres, notamment la traduction automatique, évidemment, pour arriver à la fin à mettre en cause la survie même de langues qui ne se seraient pas adaptées aux nouvelles techniques informatiques du traitement des langues. Les États-Unis sont très engagés dans l'industrie du langage et ils sont favorisés par l'immense marché de l'anglais, évidemment, par le dynamisme de leurs entreprises, toujours appuyées par les organismes officiels, et ils investissent dans de multiples applications qui ont toujours des débouchés économiques, non seulement pour l'anglo-américain, mais pour des applications multilingues et qui leur donnent la maîtrise des marchés extérieurs. Des pays puissamment intéressés par ces techniques sont attachés à ces efforts américains. Ce sont essentiellement les pays asiatiques, le Japon, la Corée, la Chine, qui les suivent et dépendent d'eux dans cet effort par nécessité pour que la spécificité de leur langue ne leur ferme pas l'accès aux ressources linguistiques mondiales. Alors il faut reconnaître que l'Europe, qui est la mère de toutes les grandes langues de culture non orientales, aborde ces questions dans un esprit bien désintéressé et surtout divisé. Et en l'occurrence, le multilinguisme n'est pas une faiblesse, ça serait plutôt un avantage, à condition d'aborder ces questions groupées et avec une résolution suffisamment forte et avec suffisamment de moyens pour surmonter les difficultés. La France avait pris de l'avance il y a une quinzaine d'années dans ces domaines. Elle a ralenti son effort depuis une dizaine d'années et il serait temps de reprendre cette entreprise tout à fait importante dans laquelle, naturellement, la langue française est très bien placée pour jouer un rôle de pilote entre toutes les langues latines. Et donc, il n'y aura pas d'industrie des langues latines s'il n'y a pas d'industrie française de la langue. D'où l'intérêt de cette question. Un mot de l'attrait de la langue française, de son rayonnement. C'est toute l'histoire de la langue française, depuis 4 siècles. Peut-être sa difficulté, c'est qu'elle a atteint très tôt un degré de perfection, un âge d'or qui a laissé croire qu'elle échapperait au temps, au déclin ou à la rivalité des autres langues. Elle était fixée dans un scintillement toujours renouvelé, et incontestablement ce rayonnement demeure. Et s'il devenait un rayonnement persistant, comme la lumière des étoiles qui nous parvient à nous longtemps encore après que celles-ci ont disparu, au bout de combien de temps le saurions-nous? Toute langue exprime une certaine vision du monde. Le français exprime une vision générale et diversifiée à la fois, haute et familière. Et si l'on cherche à caractériser ses valeurs, on doit avancer la notion de francité. C'est un beau mot formé par Senghor qu'il aurait préféré à celui de francophonie, mais qui est plus abstrait. La francité désigne la qualité, l'esprit de ce qui est français et l'idéal que proposent la langue et la culture française. Précisons encore, cet esprit, cet idéal consiste en une aspiration à l'universel, une compréhension de l'altérité, la cohérence intellectuelle, une recherche de sécurité dans les échanges langagiers, une exigence d'humanité et de dignité. Ces valeurs sont reliées à la langue française dans l'esprit de nos contemporains, au-delà des francophones. Elles sont actuelles, elles correspondent au mouvement du monde, elles entrent, pour une part, dans le rayonnement de la langue française et, en dépit de tant de menaces, elles lui évitent de faiblir. Mais la véritable inquiétude que la situation du français peut inspirer ne vient pas de la situation dans le monde, ni des rapports de puissance, ni de la conscience linguistique des francophones hors de France. Elle vient non pas de l'évolution interne de la langue, ni d'une indifférence de l'opinion à l'égard de la langue française. Non, elle vient d'une impardonnable irresponsabilité, faite d'inconscience, d'incivisme et de snobisme de la part des élites françaises. Dans les élites, j'inclus les hauts responsables de notre éducation nationale, de nombreux responsables de grandes entreprises, y compris publiques, certains journalistes, des diplomates, des experts et les gouvernants qui avaient jusqu'en 1995 manifesté une compréhension des enjeux et une conviction qui n'ont plus depuis cette date accédé au niveau des manifestations publiques des pouvoirs politiques. Et donc, si l'on observe l'ensemble des langues dans le monde aujourd'hui, on peut se demander si la faiblesse de la langue française, elle ne réside pas chez nous et précisément dans les pairs que nous connaissons bien. Toutes les langues sont soumises à un mouvement comparable. Chateaubriand avait déjà déclaré qu'il y avait sans doute une dérive des langues, comme il y a une dérive des continents. Il avait très bien analysé qu'elles s'éloignent de leurs origines et qu'elles perdent leur caractère propre. Elles se déstructurent par une sorte de dégénérescence qui leur ferait perdre, avec les siècles, leur force, leur vertu poétique, leur concision, leur sens du concret. C'est une question de savoir si les langues connaissent une jeunesse, une maturité, une vieillesse, comme les nations d'ailleurs. Si on se rapporte à la problématique de la mondialisation, je conclurai que la mondialisation ne permet pas de prévoir l'avenir de la langue française, mais qu'en tout cas, la mondialisation ne constitue pas une menace pour la langue française, bien au contraire, c'est sa chance d'expansion et de maintien au niveau actuel qui n'est pas du tout un niveau négligeable et qui est, encore une fois, celui de la deuxième langue dans le monde. Et donc, le français, dans la mondialisation, a beaucoup plus d'atouts que de handicaps. Et il conviendrait de reprendre, à mon avis, à l'intention des Français et des élites françaises, le message adressé naguère à tous les hommes, n'ayez pas peur, car finalement, les langues sont des organismes indépendants qui vivent comme une culture, comme un média, si l'on veut, par une énergie qui lui est extérieure et qui est insufflée par l'esprit humain. Et c'est pour cette raison que, à mon avis, on ne doit pas, il n'y a aucune raison de succomber au pessimisme ambiant et que le destin de notre langue n'est pas scellé, que l'on peut le ressaisir, il y faut de la conviction, de la volonté et même de la ferveur.
Vous venez d'entendre la communication de Monsieur Gabriel de Breuil sur la situation de la langue française à l'égard de la mondialisation. Cette communication avait été prononcée le mardi 20 décembre 2005 lors d'une séance solennelle de l'Académie nationale de médecine.